C'est la fièvre des séries! C'est la fièvre des séries! Et Boulevard 101 ainsi que Chaloux, on pense à vous autres, les amis. On veut vous envoyer au match 4 qui va avoir lieu à Montréal. C'est mercredi le 27 mai, donc dans 5 jours précisément, à 20h. Si vous restez à l'écoute de la programmation, les trois shows principaux, le matin, le midi, le retour avec Denis, Audrey et Véro, on vous donne des indices pour vous envoyer à ce match-là. Donc, trois indices différents par jour en semaine. 7h55 dans le pit stop, on vous en donne un. Tantôt, ça va être avec Jacinthe Varel. À midi, dans On en jase avec Jeff Fortin, on va vous en donner un. À 16h, dans Gravel dans le retour. Dans Gravel dans le retour, c'est 16h approximativement.
Oui, exactement. Ça a été 16h15 hier, ce qui est quand même pas pire pour une première pour Denis.
Est-ce
là.
Que Véro l'a chicané?
Je pense que Véro s'attendait peut-être à pire que 15 minutes d'écart.
Ben écoute, Denis nous avait dit entre 15h30 et 16h30, ouais. Donc respectez sa plage horaire.
Mais moi et Denis, on vient de la même église, ce qui fait en sorte que les heures, pour nous autres, c'est pas super important. L'important, ouais. C'est que ça fonctionne.
Ben moi, ce qui est facile... Pour moi, c'est que c'est à midi. Je pars mon émission à midi.
Ah, voilà. Fait
que je pars mon émission en disant « Hey, promo du Canadien, papapapapapac, puis bingo. »
Donc, moi, c'est encore plus facile que ça.
T'en as pas.
T'en as pas.
Trois indices différents en semaine, trois indices différents par jour. La fin de semaine, dans le Rock and Chill à 8h, le Boulevard du Rock à 10h et les Colosses du Rock à 15h. Donc, j'ai un indice pour vous autres que je vais vous donner dans les prochaines minutes vers 7h55. Le gagnant va remporter sa paire de billets pour le match 4 qui va être annoncé le mardi 26 mai dans Gravel dans le retour. Ouais, c'est ça. OK, donc tu vas apprendre le mardi que demain soir, tu t'en vas à Montréal.
Imagine, peut-être qu'à ce moment-là, le Canadien va mener la série 3-0 et pourrait balayer à Montréal les Hurricanes. Je pense pas, là, mais c'est pas dans l'impossibilité.
Donc, merci à la gang de Chaloux d'embarquer dans le trip avec nous autres. Puis salutations aux équipes de la fin de semaine qui embarquent dans le trip aussi avec nous autres. C'est 5 degrés sur Québec. Pour aujourd'hui, le mercure pourrait monter jusqu'à 18. Ça va être plein soleil. C'est la bonne nouvelle. Ce soir, cette nuit, ciel dégagé, minimum de plus 3. Demain, samedi, ensoleillé, maximum de 19. Et dimanche, ce sera nuageux avec un maximum de 18. Juste souligner que Jeff est rentré dans l'église de la Sainte-Flanelle ce matin. Il a été baptisé par l'équipe de Marceau le matin. Donc, pour un bleu, pour un nordique, depuis sa naissance, il est maintenant rendu un rouge montréalais. Bienvenue chez les Habs, mon ami.
Ça fait plaisir, le Canadien, vraiment spectaculaire. Tu sais, hier, d'habitude, je bois pas d'alcool le jeudi, puis je me suis claqué deux bières puis un rum and coke tellement j'ai apprécié le spectacle.
C'est la faute du Canadien.
C'est la faute du Canadien. Donc,
ta blonde a tout accepté ça.
Ben donc, en rentrant dans l'église du Canadien, je rentre en même temps dans l'église de l'alcoolisme.
Ah ben oui, c'est ça.
À cause du Canadien.
Ben, t'as bu le sang du Christ.
Oui, il a bu ça.
Et voilà, j'ai pensé à toujours faire un petit 2 onces de rhum pour finir.
Ah, j'ai fait un petit gin tonic hier. Tu m'as fait penser à ça, toi, hier.
À quoi? Un gin tonic?
Au gin tonic.
Moi, c'est rendu ça. Mais avant, j'étais vraiment un gars de rum and coke. Là. À cette heure, là, moi, le gin tonic, là, c'est vraiment... Je ne vis que pour ça.
J'avais du Bombay dans mon armoire, puis la bouteille n'a pas été ouverte pendant quasiment 2 ans. Elle est encore avec le petit scellant autour. Je me suis dit, allez au métro à côté de chez nous, allez chercher un peu de tonic. Hein?
Ouais, t'as inauguré la bouteille après 2 ans.
Pas grand-chose. 2 onces.
Ça, là, du tonic, y en a-tu qui boit ça tout seul?
Moi, je bois ça tout seul.
Ah ouais, pas moi. Ouais.
Ah ouais, hein?
C'est bon?
C'est pas mauvais, mais moi, je viens de l'époque où les gens buvaient beaucoup de ginger ale.
Ouais, en effet.
Mais ça, oui.
Ouais.
Mais du tonic, me semble...
Ça goûte un peu à la même affaire.
Ah ouais?
Ouais. Tu trouves pas?
Je sais pas, j'en ai jamais bu tout seul.
Bon, voilà, ça valait la peine d'en parler.
Les actualités, Leclerc Communication.
7h16, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. Max Larouche aux nouvelles en ce 22 mai 2026. On apprend quoi ce matin?
Commençons dans les faits divers. Le procès de l'ancien joueur de la LNH, Donald Brashear, s'est morcelé au Palais de justice de Québec. L'homme de 54 ans qui fait face à des accusations de voies de fait causant des lésions par étranglement et de harcèlement criminel envers une femme, dont l'identité en passant est protégée par ordonnance. Selon la preuve qui a été présentée par la poursuite, il y a plusieurs épisodes de violence qui seraient survenus entre les deux personnes. entre 2024 et 2025. La plaignante dit avoir reçu des claques au visage, avoir été étranglée. Il aurait eu la tête frappée contre le tableau de bord d'une voiture lors d'une dispute. En contre-interrogatoire, elle a reconnu cette femme-là avoir ajouté certains détails pour la toute première fois au procès, dit qu'elle a retrouvé des souvenirs après un suivi thérapeutique. Brashear, remis en liberté sous condition après son arrestation en février 2025, doit présenter sa défense aujourd'hui. Le bureau d'enquête du Journal de Québec nous en sort des pas pires aujourd'hui concernant le Centre évangélique Parole de vie à Québec. Ça, c'est l'église fondée par Paul Mukendi qui, depuis plusieurs années, là, est rendu en République démocratique du Congo, a fui le Canada après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle. Et dans ce que le journal nous apprend, ben, il y a le fait que on a reçu 50 000 $ en aide gouvernementale dans les 5 dernières années du côté de l'église Parole de vie. On apprend aussi que c'est un organisme qui conserve son enregistrement comme organisme de bienfaisance. Et ce que ça fait, ben, c'est que les gens peuvent faire don à cette église-là et obtenir des crédits d'impôt d'Ottawa en retour. Alors que plusieurs disent que même si Paul Mukendi apparaît plus officiellement dans les administrateurs de l'église, il y a des gens qui disent que c'est encore lui qui dirige tout ça à distance. Québec, de son côté, qui dit n'avoir versé aucune subvention à l'organisation, là, ce serait vraiment du côté d'Ottawa là, le problème ici.
C'est quand même particulier que le gars fasse des messes à distance. Lui, il est sur le continent africain.
Ben oui.
Puis il fait ses messes à distance qui sont diffusées sur Pierre Bertrand dans son église qu'il administre toujours, mais qui a dû changer de nom parce que Paul Mukendi, c'est un agresseur sexuel. Il s'est sauvé du Canada. Il aurait pris le passeport à son frère. Il aurait passé par l'aréna, par l'aéroport Pearson de Toronto. Le douanier n'a pas remarqué la différence entre lui et son frère en regardant sur le passeport, puis il l'aurait laissé partir. J.E. a réussi à le retrouver.
Imagine.
Il y a eu une entrevue, je pense, de 20, 25, 30 minutes avec Paul Mukendi. Nos policiers ne sont pas capables de le rapatrier, probablement en raison des ententes là, qui n'existent pas vraiment pour essayer de déporter ces individus.
Il est allé se cacher dans un pays où il ne pouvait pas justement être arrêté. Hey, question personnelle, je fais quoi si ma mère est en train de me tourner le dos parce que j'ai été baptisé dans l'église de la Sainte-Flanelle?
Ben, oh. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ta mère, donc elle devrait effectivement te tourner le dos. Là.
OK, donc ma mère devrait couper les liens avec moi.
Ben, tu n'as pas le choix. Tu peux pas rester avec des bleus. Là.
Ben, moi, si mes enfants étaient fédéralistes, je ne leur parlerais plus.
Ben, exact.
On okay. Était un peu dans le même...
Tu vas te faire renier de ta famille parce que tu es rendu dans l'église du Canada.
Ben, en même temps, mes enfants vont être contents.
Ouais, c'est ça. Tes gars vont être contents. Dis bon. Que tu fais ça pour tes enfants...
En tant que mamie, elle va dire oui. Et voilà, c'est exactement. Ça que j'y réponds. Je fais ça pour mes enfants.
Voilà. Voilà. Max?
La Ville de Québec a distribué plus de 11 000 contraventions en 6 ans pour des insultes envers ses agents de la paix et ses fonctionnaires municipaux. C'est ce qu'a pu constater le Journal de Québec grâce à une demande d'accès à l'information. Ce qu'on comprend, c'est que c'est une demande d'accès à l'information qui avait été faite dans la foulée là, de la vidéo là, devenue virale de l'automobiliste qui insultait une policière du SPVM à Montréal. Puis à ce moment-là, ce qu'on disait, c'est que à Montréal, il n'y a pas de règlement municipal qui empêche d'insulter des policiers, alors qu'à Québec, on a ce règlement-là. C'est l'article 9 du règlement 1091 de la Ville qui dit qu'il est interdit d'injurier ou d'insulter un agent de la paix ou un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions ou de tenir à son endroit des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers ou encore d'encourager ou d'inciter une personne à l'injurier ou à tenir à son endroit de tels propos. À noter que le règlement concerne les injures proférées contre tout employé municipal. Là, c'est pas les policiers en tant que tels. On n'a pas la portion exacte des amendes qui sont liées spécifiquement à des insultes contre des policiers, mais on s'entend. Tant que, en tout cas, on pense que c'est une bonne majorité. Le Soleil qui dévoile ce matin son palmarès des écoles secondaires les plus visitées par les policiers à Québec. Le SPVQ qui est intervenu à 1924 reprises dans les écoles secondaires situées sur son territoire en 2025, ce qui représente une baisse par rapport à 2024. Par contre, quand tu compares aux années précédentes, ben là, ça reste quand même un niveau qui est supérieur. Pour une deuxième année, les écoles secondaires Roger-Comtois et Neuchâtel arrivent au sommet sommet du palmarès. L'école Roger Comtois qui était au deuxième rang en 2024, mais elle a dépassé Neuchâtel en 2025 avec un nombre record de 211 interventions policières contre 144. L'école des Sentiers qui ferme le podium avec 135 interventions. Là, ce qui retient l'attention, c'est surtout l'augmentation du côté de l'école des Sentiers, parce qu'avant, c'était une école bien tranquille, et là, on arrive dans le top 3 cette année avec une forte hausse. Ce qu'il faut dire, c'est que...
Est-ce que quelqu'un a des hypothèses? T'sais, pourquoi il y a eu autant d'augmentation pour ce qui est des interventions? Ben, 2019, 387 interventions. 2019, là.
Oui, oui, oui.
Là, on est rendu en 2025. On est rendu à 1924. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans pour que ça grimpe de 387 interventions dans nos écoles à Québec à 1924?
En effet, ben là, on entend de plus en plus parler des jeunes dans le crime organisé. T'sais, je lance des hypothèses comme ça.
Les gangs de rue, augmentation des
gangs de rue. Ouais, augmentation des gangs de rue.
Quand on voit les motifs d'intervention, parce qu'on les a là, dans l'article du Soleil, on dit réglementation, c'est là où il y a le plus d'interventions, mais quand on va dans le plus précis, menace, c'est 96 dossiers, 68 dossiers de voies de fait, vol simple, on est à 57, désordre 44 et 35 pour agression sexuelle. Fait que c'est les
ouais, menace est élevée. Tantôt, il y a une parent, une mère d'une jeune fille qui va à Roger Comtois qui disait hey, c'est pas mêlant, chaque jour il y a de la bataille à Roger Comtois. Donc ça venait peut-être expliquer le nombre d'interventions justement qui étant promis.
Mais c'est-tu
ma
parce
fille
que les
me
jeunes...
rapporte que des batailles à chaque jour.
Ouais. C'est-tu parce que les jeunes depuis 6 ans voient de plus en plus de violence sur les réseaux sociaux, trouvent ça cool? C'est-tu la pandémie qui a fucké un peu tout le monde?
Ben, Sandra Dion du SPVQ, ouais. Une de ses hypothèses, c'est de dire que les téléphones cellulaires, ben, ça facilite les communications en dehors des heures de cours. Fait que là, tu sais, là, il peut avoir en ligne du harcèlement, puis là, ça peut se régler à l'école. Mais la tension peut aussi monter à l'extérieur via les réseaux sociaux, puis encore une fois, ben là, ça se règle carrément avec les points à l'école, peut-être. Puis là, la police, à ce moment-là, va intervenir à l'école. C'est une des hypothèses. Élargissement de l'Avant à Lévis. On peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est ce qu'a lancé hier le ministre des Transports, Benoît Charrette, pour passer le message qu'il y aura des complications pendant les travaux, mais que le résultat va valoir la peine. C'est un peu dans ce sens-là qu'est allé le maire Blainé aussi, mentionnant qu'on aura à subir les effets des travaux, mais que c'est pour un gain à long terme au niveau de la fluidité. Les travaux qui doivent s'étendre sur 4 étés, ils sont actuellement concentrés entre l'avenue Taniata et le chemin du Sceau. L'été prochain, on va passer au segment entre Taniata et le chemin des Îles, puis les travaux du segment entre le chemin des Îles et la route du président Kennedy, ça va se faire au cours des étés 28-29. La facture totale de l'élargissement de l'autoroute 20 qui devrait tourner aux alentours des 100 millions de dollars.
Quand même particulier, là. L'autoroute qui relie Québec au Saguenay, ça a pris 9 ans à bâtir.
Mm-hmm.
9 ans. 210 km pour 9 ans. On a dû faire du dynamitage, on a dû arracher des arbres, on a dû débarrasser ces arbres-là de la place, on a dû apporter du matériel qui n'existait pas à cet endroit-là. Ça a pris 9 ans pour 210 km.
Ouais.
Là, à Lévis, 4 ans. 10 km.
4 ans, 10
km. Puis on accepte ça. Là.
Ouais.
Les journalistes ont accepté ça. Il n'y a pas personne qui a dit « Mais voyons donc, monsieur le ministre, là, 4 ans pour mm-hmm. bâtir un tronçon d'autoroute de 10 km, c'est pas un peu long. » Il n'y a pas personne qui a amené ça. Là.
Puis là, on ne creuse pas dans le roc. Là.
Exact.
T'sais, on n'est pas à côté d'un flanc de montagne là, sur l'autoroute à Lévis. Là. Bon, il va certes avoir des poteaux de lumière à déplacer et des trucs comme ça, là, mais t'sais, je veux dire, c'est
un peu d'électricité,
c'est une construction normale.
Puis, je suis pas un spécialiste de l'asphalte, là, mais je suis un utilisateur de l'asphalte. Une route en asphalte qui dure 4 ans sont de plus en plus rares.
Ouais.
Ce qui fait en sorte que tu vas commencer ton début de chantier, tu vas asphalter tout ça, puis au bout de 4 ans, tu vas devoir revenir sur ton début de chantier pour asphalter encore.
Oui, parce que là, on fait un premier tronçon cette année là, qui va être à peu près de 2 km, là, si je ne m'abuse, de 2 ou 3 km. Donc ça veut dire que quand on va finir le 10e kilomètre dans 4 ans, on va déjà avoir fait les 3 premiers kilomètres.
mais pensons à ça, là. Autoroute des Laurentides, 9 ans, 210 km. Ouais. Là, en 2026, alors que les technologies sont supposées se bonifier année
ouais.
après année, les façons de faire sont supposées de s'améliorer année après année, là, c'est 4 ans pour 10 km.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, je reviens à ce que je disais, là. Autoroute des Laurentides, là, a fallu créer une autoroute, là. a fallu dire, ah là, il y a une montagne, on va déplacer la montagne. Allez-y, on n'a pas à faire ça.
Je serais curieux de savoir l'argent va où, précisément.
Vraiment.
Max, une petite dernière pour la route?
Oui, mais on va se parler de l'Alberta parce que les Albertains vont voter en octobre prochain pour ou contre la tenue d'un référendum sur la séparation. Fait que c'est un référendum pour déterminer si on fait un référendum.
Ouais.
L'Alberta qui avait déjà prévu tenir un vote sur plusieurs questions référendaires, fait que là, on va ajouter une question de plus. Puis évidemment, comme on parle d'une question référendaire par rapport à une séparation, la question doit être hyper simple. Hein? Je vous la lis. L'Alberta doit-elle rester une province du Canada ou le gouvernement de l'Alberta doit-il entamer la procédure juridique prévue par la Constitution canadienne afin de tenir un référendum provincial contraignant sur la question de savoir si l'Alberta doit ou non se séparer du Canada?
Ça, c'est la question, ça.
Ça, c'est la question pour savoir, sur le référendum, pour savoir si on fait un vrai référendum.
C'est une question pour savoir si on fait un référendum.
Ouais. C'est ça.
La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a été très claire dans sa prise de parole. Elle veut que l'Alberta reste dans le Canada. Elle n'est pas séparatiste. Elle va voter dans ce sens-là si on arrive à un vrai référendum sur sa souveraineté. C'est la position de son gouvernement. Elle a été super claire, mais quand même, elle veut laisser la chance à son peuple de s'exprimer. Notamment, tu sais, il y a une grosse pétition là, d'un
mais
groupe...
Mais poser la question, voulez-vous un référendum ou non, ça aurait été trop simple?
Ben oui.
Ben oui, ça reste une question sur un référendum sur la séparation. Après tout, il faut toujours que ce soit compliqué.
Souviens-toi, ouais. Question référendaire de 95, là, voulez-vous qu'on négocie? Dans le fond, c'était voulez-vous qu'on se sépare, mais qu'on reste unis au Canada avec des négociations? T'sais, c'était très torqué là, comme question.
Hey, je m'excuse de vouloir simplifier les choses. Voulez-vous, parce que c'est ça la question.
Ben oui.
Voulez-vous un référendum sur la séparation de l'Alberta?
Exactement, oui ou non?
C'est tout.
Peut-être s'il y a un référendum là, au Québec là, avec un PQ qui serait élu majoritaire, là,
ouais.
Voulez-vous que le Québec se sépare du Canada?
Vous êtes sûr que vous préférez pas l'Alberta doit-elle rester une province du Canada ou le gouvernement de l'Alberta doit-il entamer la procédure juridique prévue par la Constitution canadienne afin de tenir un référendum provincial contraignant sur la question de savoir si l'Alberta doit ou non se séparer du Canada?
Big Mac Mel DLT, encore de l'évêque, fromage, pas de poisson, hamburger, un chou-de-garçon, le chef du Jourdain, allez frapper en ton savoir.
Danielle Smith qui déplore quand même si elle veut rester dans le Canada, qu'une juge a invalidé récemment une pétition du groupe indépendantiste Stay Free Alberta qui avait amassé plus de 300 000 signatures. Et puis elle a dit qu'elle est même prête à se battre jusqu'à la Cour suprême du Canada. Puis là, ce que les oppositions disent un peu, c'est que là, elle veut jouer avec tout le monde. Là. Elle joue un double discours de, un peu à la CAQ, là, de hey, « je suis pas indépendantiste, mais on a le droit de... » Fait que, mais ça va être à surveiller.
Pas indépendantiste, mais je suis nationaliste. C'est cette carte-là que je joue.
Exactement.
Les sports.
7h29 minutes. Rod Brind'Amour, c'est bien le coach ça des Hurricanes de la Caroline.
Oui, celui qui a des gros yeux méchants. Là.
Martin Saint-Louis, ça c'est bien le coach du Canadien de Montréal.
Oui.
Les deux sont récipiendaires de la Coupe Stanley en tant que joueurs. Et là, maintenant, ils sont en série l'un contre l'autre. Hier, le Canadien de Montréal qui a décidé de donner une leçon de hockey aux Hurricanes de la Caroline. Est-ce que, je te pose la question à toi, Jeff,
ouais.
C'est-tu les Hurricanes qui se sont pas assez préparés contre le Canadien, où le Canadien a été meilleur qu'à l'habitude?
Moi, ce que j'ai vu hier, c'est le Canadien qui a été meilleur et qui s'est bien préparé pour les Hurricanes. Parce que les Hurricanes...
On est fan, hein? On sait bien, hein, Max? On est
ben
fan
oui. Ouais, c'est vrai, je suis rendu fan. Non. Très objectivement, les Hurricanes ont joué comme les Hurricanes jouent depuis le début des séries. J'avais vu deux matchs contre Ottawa, deux matchs contre Philadelphie. Énormément de pression sur le porteur du disque, des défenseurs très actifs qui vont au filet... qui, je vais prendre le langage anglophone, qui pinche sur le porteur du disque en zone offensive. Et le Canadien a contré ça avec des courtes passes rapides pour créer des surnombres. Donc vraiment, moi hier, ce que j'ai vu, c'est un Canadien qui s'est super bien adapté aux Hurricanes. J'ai hâte de voir comment Rod Brind'Amour va préparer son équipe pour samedi.
Premier trio qui a fonctionné chez le Canadien de Montréal.
Des défenseurs moins physiques du côté de la Caroline.
Slavkovski qui te sort une feinte incroyable.
Pas mal, hein? Je vais être rendu un grand défenseur de Slavkovski.
Slavkovski, ça va bien aller jusqu'à temps qu'il se fasse fesser open ice par Nikishin parce qu'il avait la tête dans le jackstrap puis que là, il va sortir avec une vraie commotion.
Lui, il est bon.
Je vous aurais prévenu.
Nikishin est arrivé en même temps que Demidov l'an dernier pour la Caroline, puis il va être très bon là, comme défenseur.
On a un auditeur qui écrit au 418-971-101, il dit « La longue pause des Hurricanes leur a fait oublier à quel rythme se jouent les séries. »
Ça peut être, justement. C'est un très bon argument. En effet, Tu sais, on a vu les Hurricanes vraiment déborder en première période. À un moment donné, j'ai vu la face de Taylor Hall qui rentre au banc, je pense, après le troisième but du Canadien ou le quatrième. Puis ça voulait dire, hey my God, quel train est en train de nous passer dessus. Là.
Question quiz. En finale de conférence depuis 2009, quelle est la fiche victoire-défaite des Hurricanes de la Caroline?
Je crois que c'est... une victoire et 13 défaites.
C'est une victoire, 17 défaites.
Ouch!
Les Canes arrivent en finale de conférence puis ils oublient de jouer au hockey depuis 2009.
C'est vrai, ils s'avaient sorti en 4 par Boston puis là, après ça, en 4 par les Panthers.
Il semble qu'à un moment donné, il y avait comme eu 3 balayages de suite.
Ouais, 3 balayages de suite. Puis l'année passée, ils ont gagné le 4e match contre les Panthers alors qu'ils perdaient 3-0.
C'est vrai.
Leur seule victoire.
Puis là, on se dit, oh, là, ils ont-tu brisé le curse? En tout cas, là, visiblement, peut-être pas.
Question de Christian. Est-ce que les Canes sont surévalués actuellement?
Ben, moi, honnêtement, quand je checkais leur alignement, puis même moi, je les avais surévalués. J'ai mis Canes en 6. Puis là, après ça, je me disais, hey, tu regardes leur line-up, c'est très équilibré, c'est très complet, mais il n'y a pas de raison de penser. Il n'y avait pas de raison de penser qu'ils allaient balayer le Canadien ou battre le Canadien en 5.
Non.
Quand tu regardes ça froidement, que tu oublies qu'ils ont fait 2 balayages dans les 2 premières rondes, puis que tu compares trio par trio, puis la défense avec la défense, puis ça va être une série de hockey qui peut aller d'un bord ou de l'autre.
Avant de devenir officiellement fan du Canadien, j'avais mis les Canes en 6. Mais tout simplement parce que je me disais, je trouvais que c'était deux équipes qui avaient une belle profondeur, là, autant en attaque qu'en défensive. Tu sais, je regarde les Kings avec un Nicolas Seiler sur le troisième
avec
trio.
Avec Jordan Staal.
Avec Jordan Staal, je trouve que ça fait une belle ligne. Martinuk qui les complète. Puis je me disais tout simplement que c'était le facteur fatigue à un moment donné qui allait entrer en ligne de compte. Mais là, hier, Frederick Anderson n'a pas rassuré personne pendant que Dobesch a continué à être solide. Là. Donc ça, ça devient un gros point d'interrogation pour les Hurricanes.
Ils vont sortir comment, samedi?
Très fort.
Ah oh, oui, c'est clair.
Est-ce qu'ils vont être plus physiques? Est-ce qu'on va crasher? Est-ce qu'on va rentrer dans Dobesch?
Ouais.
Est-ce qu'on va tenter de le déranger?
Il va falloir.
Oui. C'est pas une équipe physique à la base. Les Hurricanes.
Mais il y a 2-3 joueurs qui sont capables de brosser un peu.
Oui. Donc, William Carrier qui a quand même eu un bon match hier là, sur le quatrième trio. Celui-là même qui a dit « Ma blonde et ma famille vont prendre pour le Canadien ». C'est drôle, ça. Mais je sais pas. Moi j'étais brin d'amour. Oui, tu sais, je voudrais que mon équipe sorte forte, mais en même temps, je voudrais qu'elle sorte beaucoup plus méthodique. Mes défenseurs, je retiendrai un petit peu plus. Puis au lieu de faire de la pression régulièrement à 3 en fond de zone, j'en ramènerai un attaquant un petit peu plus haut. Ouais. Je serais beaucoup plus méthodique parce que là, ils se sont fait tellement battre sur les contre-attaques du Canadien qu'il faut qu'ils réussissent à venir casser ce rythme-là.
La fièvre des séries éliminatoires.
L'Avalanche du Colorado, c'est ce soir?
Oui, match numéro 2 entre les Golden Knights et l'Avalanche. Vegas qui a pris les 20-0 dans le premier match de la série. Carl Makar n'était pas en uniforme, blessé. Pour rater le premier match de la finale de l'Ouest, il faut qu'il soit magané, là, Carl Makar. Hier, était sur la glace à l'entraînement optionnel de l'Avalanche. Puis on a dit, on va voir ce qui se passe demain. Fait à suivre, voir si Makar sera en uniforme ce soir. Pour ce qui est des Capitales de Québec, victoire de 14-10 hier sur les Rocks de Brockton. Un autre balayage dans cette série-là. Maintenant, on s'en va du côté du New Jersey. Grand Prix du Canada à Montréal, ça se passe en fin de semaine. La course qui est prévue pour 16h dimanche. Et hier, décès qui en a surpris plus d'un. Décès de Kyle Busch à l'âge de 41 ans, le coureur de NASCAR. On ne sait pas trop ce qui est arrivé. Là. On dit une grave maladie qui l'a frappé, virus, puis ça a frappé vraisemblablement excessivement rapidement parce qu'une couple d'heures après, on apprenait son décès.
Voilà, il a remporté 2 fois le championnat en 2015 et 2019 avec l'écurie Joe Gibbs Racing. Il a également remporté 234 courses, Jeff, au cours de sa carrière parmi les 3 séries nationales de Stock Car. C'est le plus haut total de l'histoire. C'était quelqu'un qui était grandement apprécié. Mm-hmm. Il est venu faire un tour en bourse il y a de ça quelques années. Les gens m'ont dit... Il est dur d'approche, mais quand tu réussis à rentrer dans sa bulle puis tu parles son vocabulaire, il est capable de jaser pendant une couple de minutes. Là. Ça a l'air que c'est un gars qui était sympathique, somme toute. Là. Donc, grosse perte du côté du NASCAR. On fait une courte pause, il est 7h35.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation,